De la délinquance, traceur internet, pour intervenir 01 45 24 7000 dès 17h ou franceinter.com.
Le téléphone sonne, Alain Bédoué, ce soir à 19h20.
France Inter. La différence.
15h et pratiquement 4 minutes sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel, bonjour tous les AMG, je viens d'entendre aujourd'hui mercredi, Jérôme le charpentier qui revendique le droit de partir à 60 ans avec sa pleine retraite. Eh bien moi je suis à 7 mois de la retraite et je sors d'une entreprise d'Alsace où j'ai parlé avec les ouvriers et très peu d'ouvriers savent que ce droit, je dis bien ce droit de partir à l'âge de 60 ans n'est applicable que si l'on est à jour de cotisation. Et en tout état de cause, on ne partira pas avec une retraite pleine à 60 ans. On ne partira qu'avec une retraite d'environ 80% de la retraite maximale, laquelle n'est accordée qu'à l'âge de 65 ans, à condition que l'on quitte son travail à 65 ans. Et lorsque vous partez donc avec ce droit de partir à 60 ans, vous partez avec environ 80% de votre retraite maximale, et ces 80% vous sont accordés à vie. Cette retraite n'est pas revalorisable à l'âge de 65 ans. Voilà, et très peu de gens, je viens de m'apercevoir de ça, que très peu de gens sont au courant de cette chose-là. Donc peut-être que les gens vont repenser d'une autre façon l'âge de départ à 60 ou 62 ans, c'est pas là le problème finalement. Ce droit de partir à 60 ans est payant, voilà.
Pas simplement pour dire bravo M. Sarko, qui va offrir avec nos impôts le modique cadeau de 840 années de retraite de prof à Bernard Tapie, donc soit 210 millions d'euros en contrepartie de son ralliement. On voit bien qu'il y a de l'argent pour les retraites, et ben, c'est vrai qu'entre voyous, il faut bien s'entraider. Allez, au revoir, et puis j'espère que cette journée d'hier sera suivie par la majorité d'entre nous.
Sur les retraites, Gérard Filoche a dit des choses importantes que l'on n'entend pratiquement jamais sur les antennes. Concernant l'espérance de vie, c'est bien l'espérance de vie calculée à 60 ans qu'il faut prendre en compte, et pas celle calculée à partir de la naissance. On peut ajouter que les politiques se servent de cet indicateur comme ils se servent des sondages. Ils lui font dire des choses sur l'avenir qu'il est bien incapable de prédire. Alfred Sauvy, le grand démographe, écrivait à propos de cet indicateur: contrairement à ce que laisse entendre intuitivement la notion ferme d'espérance de vie à la naissance, il ne nous dit rien de la durée de vie des enfants nés cette année-là, mais mesure en fait la mortalité du moment. Dit autrement, c'est un outil virtuel qui ne sert pas à prédire l'avenir à 50 ou 60 ans, mais bien au contraire à renseigner sur la réalité immédiate de l'année en cours. C'est un indicateur très sensible au contexte sanitaire et social de l'année étudiée. La baisse de moitié des morts sur la route, par exemple, ou au contraire, les morts en trop de la canicule, modifie immédiatement cet indicateur pour l'année concernée. Un mot encore sur l'usure du corps. Filoche a encore raison. Rien n'a changé dans la physiologie du corps humain en 30 années. À l'âge de 60 ans, l'usure normale est strictement la même en 2010 qu'en 1980. Et sous l'influence de l'environnement et du mode de vie, cette usure, ce vieillissement, peut plus ou moins s'accélérer.
Bonjour Daniel Mermet et toute son équipe. Je suis en train d'écouter l'émission sur les retraites. Je voulais simplement vous donner un petit témoignage. Voilà comme j'ai réglé mon problème de retraite. Je ne suis pas allée défiler aujourd'hui dans les rues de Bannon 04. Vous voyez, j'aurais été sûrement toute seule, peut-être avec une chèvre. Et bien, j'ai 65 ans et demi. J'ai une retraite après avoir travaillé 40 ans. J'ai pas trop à me plaindre, mais elle me suffit pas, 1 400 euros. Voilà, donc j'ai trouvé du travail, j'ai repris mon travail de comptable, je garde des enfants, je fais une petite comptabilité encore à côté, c'est-à-dire je bosse toute la journée, je triple ma retraite, mais je bosse toute la journée, j'écoute France Inter, France Musique, France Culture, la vie est belle. Au revoir.
Salut à tous, un petit mot pour raconter ce qui s'est passé hier à la fin de la manif contre les retraites, après une tentative de sitting bon enfant pour occuper encore un peu la place avant 20h. Un groupe de manifestants dont je faisais partie s'est fait agresser par les CRS pendant qu'ils discutaient avec Maxime Grémette, 70 ans, qui en prenant notre défense face à la soixantaine ou je ne sais pas combien de CRS qui nous encerclaient, s'est fait mettre KO en moins de 2 secondes, allongé la tête la première sur le pavé. Aujourd'hui, les policiers essayent de communiquer sur son taux d'alcoolémie supposé. C'est un mensonge complet. Je suis un des premiers à avoir parlé avec lui pendant une dizaine de minutes. Il ne sentait absolument pas l'alcool et on connaît cette technique des policiers. C'était absolument pas un malaise. Il s'est relevé pour prendre la défense ensuite de ces militants libertaires avec lesquels sûrement au bout d'un certain temps de discussion il n'aurait pas eu tant d'affinité que ça, mais il n'empêche que même groggy et visiblement choqué, il a essayé de revenir vers nous avant que nous soyons tous emmenés dans un bus sans qu'on nous dise où et qu'on arrive au commissariat de la Goutte d'Or pour ressortir bien plus tard dans la nuit. Personnellement, je suis sorti aux alentours de 23h, mais je sais que j'ai été très chanceux et que les copains ont dû rester, pour certains, beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il faut faire tourner cette info. Le pouvoir exécutif de Sarkozy n'a aucun problème à mettre un coup de matraque sur un représentant du pouvoir législatif de 70 ans, ni à embarquer de façon arbitraire des manifestants qui n'avaient rien fait pour les emmener sans les prévenir vers où et les relâcher ensuite après une manœuvre d'intimidation et de violence symbolique qui a concerné tant des femmes que des jeunes que de simples passants qui se retrouvaient embarqués dans cette espèce de rafle complètement anachronique et décalée par rapport à une manifestation qui était plus que bon enfant.
Vendredi, une auditrice, suite à l'émission avec Bernard Friot, expliquait la difficulté de contrer l'argumentation habile des puissants. En effet, le projet de réforme des retraites est une attaque de plus du capital contre le travail. Il ne peut faire l'objet de corporatisme, mais de combats de classe. Justement, dimanche 12 septembre à 15h, à la fête de l'humanité, Frédéric Lordon et Annie Selleporce parleront dictature financière avec plusieurs organisations de jeunesse. Merci à tous.
Et merci à vous pour ces messages et ce rendez-vous. Et ben nous aussi, là-bas, si j'y suis, on sera à la fête de l'humanité demain, pas plus tard que demain à 15h, pour l'ouverture de la fête de l'humanité de 15 à 16h. Ce sera avenue Jean Jaurès dans la fête de l'humanité, au centre du parc départemental de la Courneuve à Saint-Denis. Et qui seront nos invités? Tenez-vous bien, Madame Bettencourt en personne, oui, qui viendra nous voir à la fête de l'humanité avec Monsieur Woerth, ensemble, oui, absolument. Ils seront là et ils joueront un petit jeu qui s'appelle la roue du succès. La roue du succès sont des gens qui effectivement réussissent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils réussissent dans la vie. Et ben, c'est toujours intéressant à nous tous qui n'aspirons qu'à ça, qu'à la réussite. Ils seront entourés de quelques membres d'Attaque, l'association Attaque que vous connaissez bien, et Bernard Friot, que vous avez rencontré dans la Basse J'y suis au mois de juin, puis à nouveau il y a quelques jours à la rentrée, et qui est ce sociologue qui a fait des recherches sur la retraite. Et puis on aura également quelqu'un qui viendra parler d'impôts. Impôts, retraite, Bettencourt, Woerth, on est absolument... Et puis la fête de l'humain, enfin voilà, on vous attendra donc demain avec impatience à 15h à la fête de l'humain. Aujourd'hui, ça va être passionnant encore. Oui, j'hésite pas à le dire. Qu'est-ce qui nous intéresse à là-bas si j'y suis? C'est évidemment l'emploi. L'emploi, bien sûr, pas seulement là-bas si j'y suis, c'est toute la France qui s'intéresse à l'emploi. Et puis la culture aussi. Le livre, hein, France Inter, c'est la radio du livre. Ben, on va parler des deux à la fois. On va parler des deux à la fois de l'emploi et du livre d'un poète qui est en même temps un employeur. Pas mal, ça. Tout ça, ça va nous emmener à Dunkerque. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la bassine. J'y suis. Oh, 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour Daniel. Il y a une chose dont on parle peu, c'est du sort des seniors qui sont déjà au chômage bien avant d'être à la retraite. Et ça, c'est pour, je n'ai pas exactement le pourcentage, mais il y a un grand pourcentage de gens entre 55 et 60 ans qui sont au chômage, hein, bien sûr, puisque évidemment ils coûtent trop cher, donc allez, on les vire. Donc ça représente des gens qui vont se trouver avec 2 ans de plus en fin de droit au chômage, hein, évidemment, avec une précarité très importante. Et ajouter à ça, cerise sur le gâteau, les retraites diminuées d'autant.
Les paysans de la Confédération paysanne occupent la maison du lait, 42 rue de Châteaudun à Paris, métro Saint-Lazare ou Havre-Caumartin. Et on invite les amis des paysans et les amis de la conf à venir nous rejoindre. On occupe jour et nuit pour défendre le revenu des paysans et entre autres qu'on nous accepte un siège à l'endroit où décide entre la FNSEA et les industriels le prix du lait qui ne couvre pas les revenus mais qui engraisse les actionnaires comme Madame Bettencourt et d'autres qui a des actions chez Nestlé, voilà, et qui gagne 2 millions d'euros par semaine de dividendes sur le lait et le cacao. Donc on vous invite à nous rejoindre, on y occupe jour et nuit jusqu'à ce qu'on ait des droits reconnus, la représentativité, et que ce soit la FNSEA qui décide seule de la politique du lait et du prix du lait avec les industriels et qui font crever les paysans. Salut et à bientôt, continuons le combat.
Salut à tous les VMG. Un camp No Border est prévu à Bruxelles du 25 septembre au 3 octobre prochain. 7 jours d'action, d'information, de cinéma, de débat sur les migrations et les politiques migratoires. Toutes les infos sur www.noborderbxl.eu.org. www.noborderbxl.eu.org. Voilà.
Oui, bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 19 ans et faudrait peut-être un peu écouter les jeunes de temps en temps. Parce que vous êtes bien gentils tous et je vous aime tous les AMG. Mais les jeunes, on n'en entend pas beaucoup parler. Allez, ciao.
Ouais, deux personnes qui... Vous voyez ? Ils se cachent.
Ouais.
Bah, c'est deux clandestins, est-ce que vous les voyez ?
Ouais, je les vois, ouais. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des quotas de clandestins attrapés par mois ou...
On nous demande presque de faire du 100%, quoi.
Qu'est-ce que c'est, une action particulièrement éclatante ?
Puisqu'il est plus, il est plus difficile de trouver un clandestin dans un camion qu'une dizaine. Je sais pas si c'est en trouver un ou si c'est en trouver plusieurs. Quand on a des clandestins, des fois ils sont dans des camions frigorifiques, ils sont à une quinzaine dedans, on peut même pas leur offrir un verre d'eau, on peut pas les réhydrater.
Moi, pour eux, j'ai pas de pitié, moi. Pour moi, que ce soit une femme enceinte, hein, des gosses, pour moi c'est pareil, parce que le gosse, il serait été en Irak, et le gosse, ben, il n'y a pas de pitié pour vous.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, avec Julien Brigot, les dieux ne sont pas immortels.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est 6h du matin, la brume enveloppe encore une grande partie du port de Dunkerque. On est à côté du terminal ferry de Lone Plage. Chaque année ici, ce sont 500 000 camions qui s'engouffrent dans les bateaux à destination de l'Angleterre. C'est dans ces camions que les exilés afghans essayent de passer chaque nuit la frontière. J'ai pris rendez-vous ce matin avec un chef d'équipe de la société Emuscorque. Là, on passe dans un petit bois. Les premiers camions arrivent. quelques voitures, il y a 3 hangars, on appelle ça hangar à détection humaine. Et juste derrière, donc, les bateaux. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore de navire à quai. Les camions arrivent, petit à petit. Ce matin, on va essayer d'assister à un contrôle de camion et vérifier si, effectivement, il y a bien éthique et humanisme, comme le proclame Patrick Garbett, le directeur de cette société de 138 salariés, sur son site internet.
Très important, l'éthique. L'éthique, c'est très important. L'humanisme, très important. L'humanisme, et quoi de plus beau que l'éthique et l'humanisme. Voilà ce qui a attiré Julien Brigaud dans ces parages. Et il se demandait comment c'était possible, l'éthique et l'humanisme, dans une société qui laisse des annonces dans la presse. Agents de sécurité, hommes, femmes, vous intervenez en cas de découverte de clandestins, femmes et enfants, débutants acceptés. Et le lieu de travail, hangar à détection humaine. Voilà, ça se passe au terminal ferry du port de Dunkerque. 580 000 camions s'engouffrent chaque année à destination des ports anglais. Et bien sûr, imaginez le contrôle. Il faut contrôler tout ce monde-là parce que tous ces camions, parce qu'il y a ces satanés clandestins qui essayent d'entrer en Angleterre. Et ça représente du boulot. Eh oui, il faut contrôler tout ce monde-là, ces 580 000 camions et ces satanés clandestins. Aussi, Patrick Garbett, un ancien policier des renseignements généraux, a-t-il eu l'idée de créer une entreprise spécialisée dans la détection des migrants qui, lamentablement, se cramponnent aux essieux des poids lourds ou meurent, plus ou moins, dans les camions frigorifiques? Mais attention, on l'a dit en commençant, avec éthique et humanisme. Alors on va aller voir et on va un peu contrôler les contrôleurs, surveiller les surveillants et mater les matons. Dans la joie, parce que renvoyer des gens, on l'a vu avec les Roms, contrôler des clandestins ou bien traiter des cas de chômeurs, eh bien tout ça, ça crée de l'emploi et ça nous intéresse. J'ai parlé de livres en commençant et de littérature. Eh bien on va découvrir que Patrick Garbett, ancien policier des renseignements généraux, chef d'entreprise prospère, éthique et humaniste, est aussi un écrivain remarquable et remarqué par nous au moins. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Il est 19h30, métro, porte de Clichy. La station vide son ventre, les gens se poussent vers la sortie. Deux hommes agenouillés au sol, les mains derrière le dos, font face à 4 flics décidés, les mains en matraqué. Et voilà pour la procédure en matière d'arrestation des personnes en séjour irrégulier. Et voilà pour la fraternité. Ils avaient bloqué les sorties et contrôlaient les gens au faciès. Ils le font devant les écoles aussi. C'est la consigne, le chiffre avant le reste. Thank you. ce soir. On a volé de père à leurs enfants, ou bien on a arrêté les méchants. Il n'y a qu'un seul mot, c'est la rafle. Pas besoin de spécialistes pour reconnaître les bonnes vieilles méthodes de l'empire colonialiste. Il sera toujours temps de venir s'excuser en disant nous on ne faisait qu'obéir. Il sera toujours temps de commémorer les bonnes consciences aime à se recueillir.
La particularité de notre société est d'être implantée sur les trois ports du littoral, Calais, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. Toutefois, les contrôles que nous y opérons sont différents. Au port de Boulogne, nous agissons dans le cadre du code ISPS, qui régit les mesures de sûreté maritime. Au port de Calais et de Dunkerque, nous sommes sous-traitants des services de l'immigration britannique. Nos agents ont suivi en Grande-Bretagne une formation qui leur a permis d'obtenir l'autorisation de monter dans les camions, d'interpeller des clandestins et de les détenir. Cette double casquette, si l'on peut s'exprimer ainsi que l'implantation privilégiée sur les trois ports, a permis à la société d'acquérir une expérience indéniable et un positionnement privilégié dans le domaine de la sûreté maritime.
Bonjour. Juste un petit moment, il faut que j'envoie quelqu'un en ronde.
D'accord.
Là, on est au terminal fret de Norfolk, quoi, pour le départ pour l'Angleterre. Donc, on fait les contrôles de camion pour éviter qu'il y ait du monde à l'intérieur des candidats au passage en Angleterre. Je travaille ici depuis plusieurs années. Donc, pour travailler ici, il faut en vouloir. Hein, parce que bon, on arrête des gens qui cherchent quelque chose de meilleur pour eux. Donc, la plupart des gens font ça par dépit, quoi, parce que faut trouver du travail, quoi, et dans des conditions qui sont pas terribles, quoi. Donc,
comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des quotas de clandestins attrapés par mois ou...
On nous demande presque de faire du 100%, quoi. On fait du 100% de contrôle de camion, donc ça, on est obligé de contrôler tous les camions, mais on a des technologies maintenant qui vieillissent, quoi, et... Le matériel est plus terriblement au point, donc en ce moment on a pas mal de passages malgré nous, de clandestins qui se retrouvent plus loin au contrôle de l'immigration en fait.
C'est-à-dire malgré la présence de sondes à oxygène, de sondes à battement de cœur et de sondes thermiques, certains arrivent quand même à passer, c'est ça?
Ouais, sauf qu'on n'a rien de tout ça, quoi. Il n'y a pas de détecteur de battement cardiaque, il n'y a pas de sonde thermique. À la rigueur, on a des sondes de contrôle qui détectent le taux de CO2 dans l'atmosphère, quoi. C'est des appareils qui vieillissent, là, en ce moment, ils ont plusieurs années, quoi. Ils tournent 24 heures sur 24, et ils sont à chasse, là. Donc le mieux pour nous, en fait, c'est d'ouvrir le camion.
Et éventuellement de se balader dedans, de chercher, de...
Ouais, c'est ça le but, ouais.
La principale activité ici, c'est d'ouvrir les camions et de chercher dedans s'il n'y a pas des êtres humains,
ouais,
qui sont dedans.
C'est de la détection, quoi.
Juste derrière, il y a un deuxième poste de contrôle, c'est ça?
Oui, c'est par l'immigration anglaise, qui eux travaillent bien souvent avec des chiens de détection. Donc, en fait, un peu comme les chiens de la douane pour la drogue, eux, ils sont entraînés pour les clandestins.
Les clandestins ont une odeur particulière
Ils détectent que à certains endroits du camion, les passages, là où ils ont pu mettre les mains, les choses comme ça, quoi, ils les détectent. Mais bon, effectivement, il y a une odeur de clandestin. Comme ils sont dans les bois, ils se chauffent au bois et tout ça, donc il y a une odeur un petit peu de bois, quoi, de fumée.
Voilà, l'odeur de feu de bois du clandestin. Bon, c'était l'odeur du burnou qui sentait la sueur, voilà.
Alors, les moyens de détection, vous avez entendu, hein, ça peut être très très sophistiqué. Là, cet agent se plaint de l'usure du matériel, mais enfin, détecteur de dioxyde de carbone, détecteur de battements cardiaques, système d'imagerie à ondes millimétriques, on a du matériel, hein, si ça vous intéresse de rentrer dans la sécurité. On trouve que ces politiques sécuritaires sont abusives, etc. Il y a des gens, vous avez entendu, des gens qui manifestent dans les rues contre les politiques sécuritaires, mais ils ignorent quelque chose, ces gens-là. C'est que la sécurité, ça fait du travail, ça crée de l'emploi. 3000 entreprises de sécurité privées en France, 3000, eh bien, c'est 165 000 agents de sécurité, 165 000 emplois. C'est déjà ça. Et les entreprises de sécurité prévoient plus de 100 000 emplois d'ici à 2015. Donc la sécurité, c'est l'avenir.
Donc là, vous êtes en plein contrôle, là, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Vous attendez une minute ou deux, comme ça, le temps qu'ils prennent bien ?
On attend 40 secondes par point, généralement.
Là, vous le passez à l'avant du camion, voilà. Avant, arrière ?
Voilà, c'est ça. Ouais.
À deux endroits du camion ?
Voilà, c'est ça. À l'arrière et à l'avant du camion.
Comment on appelle cet engin ?
Un CO2. Ouais, tout simplement un CO2.
Donc là, il est à 40.
Ouais, 50.
Il monte à 50. C'est quoi le chiffre où vous êtes sûr qu'il y a des gens qui sont dedans ?
Bah, ça, en fait, comme là, il monte tout doucement, ça va, tu vois. Mais une fois qu'il monte vite, ça va vite jusqu'à 150, 160. Là, on commence à ouvrir. En fait, je demande à mon collègue comment il est sur CO2. S'il me dit, ouais, il est à 80, là, on va l'ouvrir. Généralement, 60, ça va. Quoi. C'est un taux raisonnable.
Ça marche bien, ça ?
Bah, comme je vous dis, ça monte pas sur du papier, ça monte sur du bois. On se met à ça, quoi. Sinon, on peut ouvrir tous les camions, quoi. Donc, c'est un travail assez fatigant, surtout pour le dos. Parce que ça peut monter jusqu'à 400 camions par poste, quoi.
Par poste ?
Ah ouais, on peut faire 400 camions par poste, facile. Généralement, c'est ça qu'on fait, mais bon, aujourd'hui, ça m'a l'air d'être calme, c'est cool.
Passage sur le site internet de la société.
Là, je peux pas trop parler, là, il y a les Anglais.
Il y a les Anglais.
Ouais, l'immigration, quoi.
L'immigration anglaise.
Ouais.
On va rentrer dans la petite aubette.
Vous voulez lire un passage de...
Je vais vous lire un passage de ce que le patron des Muscorp Security écrit sur son site internet, enfin sur le site internet de la société, puis juste, vous allez me dire si c'est bien conforme à la réalité ou si vous le ressentez comme ça. À l'origine, Emus Cork est le personnage principal de mon premier roman, inspiré de la plus pure tradition gaélique irlandaise. Il symbolise le respect de la personne humaine, le goût de l'aventure et la quête de l'absolu. C'est dans cet esprit qu'est né en 2004 le groupe Emus Cork, avec l'ambition de devenir un leader de la sûreté, notamment sur les sites portuaires et aéroportuaires. En 5 ans, nous avons non seulement atteint cet objectif sur la zone Transmanche et la mer du Nord, cette expansion régulière est avant tout le fruit d'une politique commerciale volontariste basée sur l'expertise, la qualité du service rendu et la part prépondérante accordée à la communication et à la transparence. Mais cela n'exclut pas l'observance de certaines règles d'humanisme, comme le respect de la dignité humaine, le droit à la différence. Cette culture entreprise fait naturellement partie intégrante de la formation continue dispensée à nos collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Avec le 21e siècle, s'ouvre de nouveaux défis économiques, humanitaires, environnementaux et bien sûr sécuritaires. J'ai bon espoir que la véritable foi qui nous a animés depuis notre naissance nous aide à relever les challenges qui nous seront proposés. Mais je livre avant tout cette confiance à la valeur de nos collaborateurs et de nos partenaires, hommes et femmes, parfois héros anonymes de notre quotidien. Mais sans qui, assurément, rien n'est possible. Qu'il trouve dans ce message un témoignage de notre reconnaissance. Patrick Gerbet, le mot du président, emuscorp.com. Donc ça c'est un petit peu, parce que le comme vous savez peut-être, je sais pas si vous savez, mais il a écrit un livre,
ouais.
Vous êtes au courant?
Oui, oui, on est au courant.
Vous l'avez lu?
Non. Non, non.
Il vous l'a offert ou...
Ah non, non. Non, et puis de toute façon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui lirait le livre. Donc, non. Alors non, moi je pense pas que ce soit la réalité, quoi. Vous avez déjà regardé. Regardez autour de vous, là, il manque un carreau, ça fait un an que c'est comme ça. C'est là où en fait on est censé prendre nos repos, nos pauses de repas, où il n'y a pas de point d'eau, donc on n'a pas de point d'eau ici pour se laver les mains, on n'a pas de vestiaire. Donc bon, je pense que pour le respect de la personne humaine, il peut repasser. Quoi. Puis, puisque c'est pas faute de demander les moyens pour se laver les mains, on demande régulièrement, et bon, c'est pas ce qui semble l'intéresser le plus dans sa société, quoi. Je veux dire, le respect de la personne humaine, ça commence aussi. Je veux dire, nous, quand on a des clandestins, des fois, ils sont dans des camions frigorifiques, ils sont à une quinzaine dedans, on peut même pas leur offrir un verre d'eau parce que un camion frigorifique, ça, je veux dire, c'est hermétique à l'air, quoi. Donc là, par le temps qu'il fait, si le frigo est pas activé, on trouve des gens qui sont en manque d'oxygène, on peut pas les réhydrater.
Arkas batarike dilema me shikana
de Montreuil-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais. On est le dimanche de Pentecôte et on va essayer de rentrer dans l'hôtel Hermitage où se tient la deuxième édition du festival La Citadelle des Mots, où il y a des poètes, il y a des romanciers, il y a des essayistes, il y a un petit peu de tout, et on va essayer de rencontrer un auteur en particulier qui est un auteur du nord de la France qui s'appelle Patrick Gerbette, qui est donc directeur de Emus Cork Security, Emus Cork étant le nom du héros qu'il a créé lui-même dans son livre Les dieux ne sont pas immortels.
Qui ça peut être? On va poser la question, on va peut-être le trouver cet homme-là. Qui ça peut être? C'est Gerbette.
Bon, je vais peut-être
un sacré gaillard. Non, c'est pas lui. C'est en dessous. Il y a Gérard et Patrick, auteur édition Manaman. Les dieux ne sont pas immortels. Qui c'est ça? Il doit bien avoir un bouquin quand même, quelque part.
Je ne sais pas qui c'est, mais je l'ai vu hier. Ah. Ça me jette un petit bout.
Ça me jette un petit bout.
Ouais, Attends, je cherche. Oui, c'est Monsieur Garbett. C'est ce monsieur-là, je...
Bonjour. Il y a un auteur qui a votre nom, c'est Patrick Garbett.
Ah oui, il est pas là, il est parti.
Il est parti. Vous êtes famille avec lui, non?
Oui, c'est mon neveu.
Ah, c'est votre neveu, d'accord.
Il est parti ce midi, quand il n'y avait plus de place, il est parti.
Ah ouais, il n'y avait plus de place, d'accord. L'écriture, c'est une histoire de famille, ça a toujours été...
Non, on allait seul. Moi, j'ai commencé, il a continué. Il a pris le wagon en marche, quoi. Chacun de son côté.
Vous aviez déjà édité avant lui?
Ah oui, oui, bien avant. Ouais.
Bien avant.
Oui, ça vient de sortir cette année. Moi, ça fait depuis fin 95 que je commence. Je commence les cartes.
Ça fait 15 ans que vous écrivez, voilà. Quoi. D'accord. Ok.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Monsieur Garbett.
Pas de rien.
On sort des salles des auteurs, on est que basse. On a loupé la perle du Nord, Patrick Garbett. On a croisé son oncle, mais on n'a pas vu le neveu. Et c'est pourtant lui qui nous intéressait. Donc on va partir à sa recherche. On va le contacter, puis on va essayer d'aller le rencontrer dans son fief, pas loin du port de Dunkerque, là où il embauche une centaine d'agents de sécurité pour traquer les Afghans et les Irakiens sous les essieux des camions ou dans les camions frigorifiques. On repart sur la place de Montreuil-sur-Mer. Et c'est une grande tristesse qui nous étreint. On a dépensé 100 euros pour venir ici en essence. On a pris une bonne noix d'entrecôte ce midi. Avec un jus d'orange, avec un café allongé, tout ça. On s'était bien préparé pour être prêt intellectuellement pour discuter avec l'auteur des Dieux ne sont pas immortels, mais on ne l'a pas rencontré aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas grave. On fait un petit signe au monument aux morts, offert à la ville de Montreuil par le comte Georges de Lommel et le Souvenir français en 1912. Voilà.
C'est pas grave, mais on sent comme une petite pointe d'amertume dans les propos de ce jeune reporter qui accompagne les noix d'entrecôte de jus d'orange. Il y a une rééducation complète à faire de ce côté-là, mais nous en parlerons ultérieurement. Pour l'instant, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la rencontre avec cet homme d'exception. Pas seulement l'homme de l'éthique, pas seulement l'homme de l'humanisme, pas seulement le chef d'entreprise qui accomplit un parcours entrepreneurial formidable, mais aussi le poète, l'écrivain, l'auteur de « Les dieux ne sont pas immortels ». Je vais parler de Patrick Garbett.
Bonjour.
Oui, bonjour. Pourrais-je parler à la responsable des ressources humaines, s'il vous plaît?
C'est à quel sujet?
C'est en fait, voilà, je suis journaliste et je prépare un reportage sur l'immigration clandestine. Et j'aurais aimé parler avec la directrice des ressources humaines ou un administrateur de la société.
Je vais voir si quelqu'un peut recevoir l'appel. Ne quittez pas.
Merci. Bon, ils ont raccroché. Bon.
Muscor, bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi, je viens d'appeler, puis ça a raccroché.
Oui, c'est que personne ne peut répondre à votre appel. Bon. Voilà.
Il n'y a pas d'administrateur aujourd'hui qui pourrait me parler, parce que en fait je suis tombé sur un article où je voyais que Emuscorp Security était oui. Était chargé de faire la détection de clandestins dans le port de Dunkerque, et en fait je comprenais pas, parce qu'il y a apparemment une philosophie de respect de la personne humaine et d'humanisme et d'éthique, et en fait j'aurais voulu comprendre en quoi ça consiste l'humanisme et l'éthique de la société en fait.
Oui, bah écoutez, il n'y a personne qui peut répondre à vos questions pour l'instant. Je suis vraiment désolée.
Ah bon?
Voilà.
Même vous?
Non, moi je réponds à aucune question.
Donc là, il n'y a personne?
Non. Voilà, je vais devoir vous laisser, j'ai du boulot. Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Ah, on espère qu'il va réussir à le rencontrer. Hein. Ouais, en attendant, notre reporter se rabat, si on ose dire, sur... ceux qui font ce charmant boulot.
Camionneur bulgare en short et en tongs.
Donc ils dorment, ils veulent qu'on contrôle leur camion le matin. Enfin, contrôler en... le plus mieux possible.
l'agent de sécurité est monté dans le chargement. C'est pour Nissan Motor Manufacture. C'est des pièces automobiles. Les gens qui sont arrêtés ici, pour beaucoup, ils ont déjà réussi à passer une dizaine de frontières. La frontière iranienne, irakienne, turque, grecque, italienne, française. Et ici, c'est terminus, quoi.
On n'a pas le choix, on doit vivre. Hein. Par moments, c'est plus difficile, suivant les personnes découvertes. Hein. Bon, si on tombe sur des hommes qui sont à plusieurs, c'est pas pareil que si on tombe sur une famille ou des enfants, ou des handicapés. On a des handicapés qui passent aussi. C'est faire avec, quoi.
Et vous, monsieur ?
Bah ouais, c'est ça en fait. Hein. Ouais, le plus que ça me fait mal au cœur, c'est quand on tombe sur des femmes avec des gosses. Hein. Sinon, voilà.
Vous, monsieur ?
Moi, pour eux, j'ai pas de pitié, moi. Je veux dire pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait la guerre du Golfe. Et là-bas, nous, là-bas, avec eux, ils nous avaient pas de pitié pour nous. Donc, c'est... moi, c'est pour moi, que ça soit une femme enceinte et des gosses, pour moi, c'est pareil. Parce que le gosse, ça aurait été en Irak, et le gosse, ben, il n'y a pas de pitié pour vous. Donc, si, ça serait pareil. Moi, j'ai. Personnellement, moi, j'ai pas de pitié.
Vous étiez militaire, c'est ça ?
Ouais, j'ai fait 7 ans dans l'armée. J'étais parachutiste dans la fonderie de marine. On était en alerte 24h/24. Il y aurait eu un gosse avec une Kalachnikov, un truc comme ça, ils n'hésitaient pas à tirer sur nous. Alors pourquoi ? Moi, je ferais pareil ici.
Ouais, mais ici, c'est pour eux. Ici, c'est...
Ouais, c'est plus la guerre. Moi, personnellement, moi, ça me fait rien. Ça me fait rien. Moi, je vais vous dire, maintenant, en Irak, il reste quoi ? La guerre, c'est fini. Maintenant, c'est plutôt entre eux qui se mettent sur la tronche l'un sur l'autre. Je vois pas pourquoi ils vont venir en Angleterre et faire pareil. Bah, je garde l'esprit militaire, mais je suis comme ça. Bon, peut-être que j'aurais pas fait l'armée, j'aurais pas vu la même chose. Mais je dis, pour voir ça, bah, non, faut faire quelque chose dans l'armée. Quoi. C'est pas en restant ici, en faisant une journée, là, qu'on va savoir quoi. Depuis que j'ai quitté l'armée, je fais ça, la sécurité. J'étais sur Solac, bon, c'était pas la même chose. C'était plus contre le badge et tout ça. Et après, comme la patronne qui a la bâton, mais non, la femme à M. Garbet, Mme Benarfa, Sherazade, elle travaillait avec moi. Après, la société, elle n'a pas été reprise. Donc, elle n'a pas été reprise, elle est restée dans l'ancienne société. Et elle m'a toujours dit, t'as ta place chez nous. Donc, je suis fait 10 ans dans l'ancienne boîte.
Comment elle s'appelait ?
C'était Sofraz. Après, c'est passé Pretorie. Il y a eu l'appel d'offres, ils n'ont pas regardé, c'est les mains de sécurité maintenant. Donc bah après j'ai tout fait, comme on m'avait fait des promesses, j'ai tout fait pour me faire virer, ce que j'ai fait. Je suis arrivé dans la boîte, mais comme c'était une bonne amie et qu'elle était avec Patrick, ça a changé les choses. À mon avis, Patrick a dû dire, ouais, c'est un employé, il ne faut plus le côtoyer. Quoi. Donc maintenant c'est boulot comme ça. Et toutes les promesses qu'elle m'a fait, bah, j'ai rien eu. Ici c'est plutôt une boîte familiale, aussi. C'est cousins, les frères, ceci, cela, ouais. Et après, bon, il y a les amis, mais les amis, c'est vite oublié, quoi. Même en ayant rendu des services, on fait comme si on les connaît pas.
C'est-à-dire que ça se fait en famille, la sécurité. C'est beaucoup de cousins, de frères.
Ouais, moi, quand je suis rentré, il y avait déjà le frère. Après, il y a eu un autre frère qui est rentré, le cousin. Et il doit avoir des autres relations que je connais pas, des amis, des trucs comme ça.
Donc c'est une note d'attention qui nous demande de resserrer les contrôles puisque ça n'a pas été bon, donc c'était en février. Donc la comparaison des statistiques d'interpellation des clandestins par UKBA et ECS fait apparaître que le mois de février 2010 a été particulièrement préjudiciable au renom de notre société et a provoqué un fort ressentiment de la part de notre donneur d'ordre, la compagnie Norfolk Line. En effet, nous avons procédé à l'interpellation de 82 clandestins alors que durant la même période, UKBA, donc l'immigration britannique, on a interpellé 87, ce qui donne un ratio de 106%, le ratio maximum habituellement admis se situe entre 15 et 20%. Ces résultats sont inadmissibles et doivent être corrigés dès le mois de mars. Dès à présent, sur la réception de cette note, et ce,
Indépendamment des problèmes liés aux équipements, je demande l'application de la règle suivante. Contrôler tous les camions, renseigner les formulaires prévus à cet effet. Présence continue de deux agents dans au moins un hangar, même en l'absence de trafic. Privilégier les contrôles visuels lorsque vous avez un doute sur la fiabilité des CO2. Effectuer des contrôles aléatoires. Le non-respect de ces consignes fera systématiquement l'objet d'une explication écrite et d'éventuelles sanctions pourront être appliquées. A contrario, une action particulièrement éclatante pourra se voir encouragée.
Qu'est-ce que c'est, une action particulièrement éclatante?
Ben, je sais pas. Je sais pas, c'est... Puisqu'il est plus difficile de trouver un clandestin dans un camion qu'une dizaine. Je sais pas si c'est en trouver un ou si c'est en trouver plusieurs.
Il y a souvent des notes de service comme ça?
Ça arrive régulièrement, quoi.
C'est-à-dire vous faites pas assez de chiffres, quoi?
Ah ouais, on est là pour le chiffre, hein. De toute façon, l'idéal, c'est du 100%, hein.
On est le mercredi 9 juin et je vais retenter d'appeler la société Emuscorp Security.
Emuscorp, bonjour.
Oui, bonjour. Pourrais-je parler au directeur d'Emuscorp Security, s'il vous plaît?
Il est absent aujourd'hui.
Il est absent aujourd'hui.
Oui. Quel sujet?
Ben, en fait, j'ai appelé hier, je suis Julien Brigaud, je suis journaliste à Radio France et en fait, j'aurais voulu discuter avec soit le directeur, soit un adjoint, enfin quelqu'un de la direction, quoi.
Enfin, aujourd'hui, il y a le forum de l'emploi, donc ils sont à l'extérieur.
Il y a le forum de l'emploi à Dunkerque?
À Gravelines.
À Gravelines, d'accord. Donc là, il n'y a absolument personne au bureau?
Non, je suis seule.
Vous êtes toute seule?
Oui.
D'accord, vous êtes en train de lire « Les dieux ne sont pas immortels », non?
Non, pourquoi cette question?
Bah, parce que c'est le nom de la société vient du roman, c'est ça?
Enfin, écoutez, je suis toute jeune dans l'entreprise, donc je peux pas répondre à toutes les questions.
D'accord. On vous a pas expliqué que c'était le roman de Patrick Garbett qui avait donné le nom aux 6 entreprises du groupe?
Si.
Ah, d'accord. Et vous l'avez voilà. Lu alors, non?
Oui.
C'est vrai?
Oui, mais écoutez, j'ai pas beaucoup le temps, étant donné que je suis toute seule. Je suis vraiment désolée, je peux vraiment pas vous aider.
Bonne journée, bon courage.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
سأكون واقفا وثابتا عند شروق الشمس سيكون لدي القوة لأعيد غرس الشجرة في الأرض وأصبر لأراها تكبر وأصبر لأراها تكبر عند غروب معاناتي وشروق حريتي عند غروب معاناتي وشروق حريتي شروق حريتي شروق حريتي شروق حريتي
oui deux personnes là qui vous voyez le malheur, regardez, vous voyez. Ils se cachent.
Ouais,
deux clandestins, est-ce que vous les voyez là?
Ouais, je les vois, ouais. Ouais.
Juste à droite.
Il y a deux ombres là, à une centaine de mètres.
Voilà, vous avez compris, c'est la traque aux clandestins. C'est une activité à temps plein, c'est une activité économique, c'est une activité économique en plein essor et qui permet à cet étrange... patron, monsieur Garbett, de par ailleurs trouver le temps, en dépit de toutes les vicissitudes, et Dieu sait si elles sont nombreuses, que peut rencontrer un créateur d'entreprise, trouver le temps d'écrire des romans extrêmement pénétrants. Et c'est même, dit-il, je vis pour mes rêves, je suis comme ça. Et mon entreprise, c'est un support pour publier mon roman. Voilà ce que ce monsieur affirme pendant que les agents de son entreprise scrutent le clandestin.
T'arrêtes pas de bosser, dis donc.
Bah non, c'est l'habitude.
Des formations professionnelles.
Voilà, c'est dans n'importe quel job, il y a des réflexes. Et là, notre réflexe, c'est notre vue. Et quand on voit quelque chose qui nous semble... une personne humaine ou une ombre humaine, on a tendance à vite les repérer. Mais là, vous voyez, il y a deux personnes qui vont Je pense que là, comme ils sont partis, ils vont longer le chenal qui est à 30 mètres 2 à peu près. Et ils vont entrer sur le site qui est ici à 150 mètres maintenant.
D'accord.
C'est pour ça, et je suis persuadé que dans 40 minutes, ils sont interpellés par l'immigration qui est là-bas. Parce que là, comme ils sont partis, ils n'iront pas sur les camions, ils iront directement sur le site. Enfin, c'est paradoxal.
Ouais. Qu'est-ce qui est paradoxal?
Bah, c'est d'être là, arrêter des personnes qui souhaitent partir, être plus heureux quelque part. Je comprends le travail, mais que tous les jours ça soit la même personne, c'est... On a l'impression de travailler pour rien. C'est un peu ça. Bon, après, c'est pas à notre échelle que ça se décide. C'est bien plus haut que ça. Je pense que c'est à Paris que ça se décide. Mais bon, nous on est des simples agents de sécurité, comme ils aiment si bien le dire. Une fois, personnellement, j'ai fait 38 clandestins dans un camion. 38. Ça, c'était il y a 3 ans maintenant. 38 clandestins, on le stocke dans un hangar. La police arrive, enlève les 38 clandestins du véhicule et nous laisse les garder. Et eux, ils partent. 38 clandestins dans un hangar à surveiller alors qu'on est que deux. Donc, Dieu sait ce qui peut arriver, hein. Je fais peut-être un peu dans les extrêmes, mais bon, c'est déjà arrivé à Calais, pourquoi pas ici. On n'est pas à l'abri qu'il y a 30 ou 40 clandestins qui sortent des arbres et qui nous foncent dessus, on est 4. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part se sauver et espérer qu'ils ne nous rattrapent pas. Bon, il y a déjà eu des raids de clandestins, enfin, si je peux appeler ça comme ça, des raids de clandestins, environ 100 clandestins qui ont forcé les contrôles. Armés de bâtons, de pierres, de ce que vous voulez. Ils ont dû fermer le port pendant quelques heures, temps de rétablir l'ordre. Et là, pourquoi pas, hein, ici, c'est par rapport à Calais, ici, si je peux employer cette expression, c'est un moulin. Une personne qui veut faire exploser un bateau, il n'y a aucun problème. Hein. Là, il rentre comme dans un moulin.
Malgré toute la sécurité complètement hallucinante qu'il peut y avoir, finalement, ce que vous dites, c'est les gens qui veulent vraiment rentrer, ils y arriveront, quoi.
Bien sûr. Bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire une expérience, un jour, vous me dites que vous voulez rentrer sur le site, je vous fais rentrer en claquant des doigts et vous êtes sur le bateau et vous allez directement en Angleterre. Hein. Ça, il n'y a aucun problème.
C'est quoi la technique, alors?
Bah, par exemple, passer sur le site ou tout simplement monter dans un camion parce que les contrôles, ils sont pas fiables. Vous êtes tout seul dans un camion de 16 mètres sur 3 mètres de... 7 mètres sur 2,50 mètres de large pour vous cacher. Et ici, on peut rentrer comme on veut. Il n'y a aucun problème.
On se dit les pauvres quand même, ils dépensent des millions et des millions pour sécuriser cette frontière et en fait, ça ne marche pas.
Non, c'est une image. Hein, c'est complètement une image. Hein. On dit c'est beau. Comme vous l'avez dit, il y a plein de grillages. Ça a l'air sécurisé. Ça a l'air sécurisé. À Calais, c'est peut-être plus sécurisé d'ici, je connais pas trop, mais ici, c'est complètement une image, quoi. Ça a l'air sécurisé. D'ailleurs, il y a des clandestins qui arrivent à rentrer sur le site je vais pas dire toutes les nuits, mais au moins quelques fois par semaine. Et ils y arrivent régulièrement et facilement. Après, ils se font interpeller sur le site parce que il y a pas mal de personnes de l'immigration qui font des rondes ou des chauffeurs qui connaissent un peu ce que c'est la façon de voir un clandestin parce qu'ils en ont déjà vu dans leur camion ou de reconnaître un clandestin tout simplement. Donc ils avertissent un peu les autorités. Mais autrement, oui, il n'y a aucune difficulté à rentrer sur le site. Faut pas se leurrer, ils sont pas plus bêtes que nous. Nous, on est suffisamment intelligents pour les attraper, mais ils sont suffisamment intelligents pour pouvoir aller en Angleterre aussi. Et eux, ils tentent tous les jours. Tous les jours, ils passent, ils retentent. Et au bout d'un moment, ça passe. On n'est pas infaillible. Mais avec les circonstances de la société, on est moins infaillible encore.
Il y a 6 mois, il y a un Afghan qui a même réussi à passer la frontière sous un camion de police.
Ouais. Enfin, ça s'est passé à Calais, il me semble. Ouais. Bah oui, comme je vous dis, c'est paradoxal hein, quand même. C'est un camion de police. Il faut être. Qui va contrôler un camion de police? personne. Oui. Enfin là, vous voyez, dans la pénombre.
Dans la pénombre.
On ne voit plus rien.
Là, ils sont partis. On leur souhaite bonne chance quand même.
Ah ouais, bonne chance et bon courage. Là, ça va, il fait un peu chaud, mais quand il fait moins 9 en hiver, c'est une autre paire de manches.
Merci à tous, c'était un reportage de Julien Brigaud. Merci aux employés des mules. Merci aussi à Sylvie de Jonquet et aux bénévoles de Salam. Et puis, je vous le disais en commençant, nous serons demain à la fête de l'humanité avec Liliane Bettencourt elle-même, avec Eric Woerth, qui seront les invités de la base, si j'y suis, autour de la roue des privilèges qui tournera pendant une heure, de 15h à 16h. Il y aura aussi des membres d'Attaque, il y aura aussi Bernard Friot, l'auteur de l'enjeu des retraites, ainsi que Vincent Drezet, du SNUI, du Syndicat National Uni des Impôts. Rendez-vous avenue Jean Jaurès dans le parc de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, à partir de 15h. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Rémi Quincet, Pierrick Monsigny étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attends vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.
France 3. Pour la rentrée, Georges Pernoud embarque de drôles de matelots pour un tour du monde autour des océans. Des voyages.
Vous connaissez Thalassa ?
Des rencontres, du rêve, de l'aventure. Thalassa, une toute nouvelle ligne d'horizon, tous les vendredis à 20h35 sur France 3. France 3, de près, on se comprend mieux.
16h40 sur Inter. Les infos, Corinne Audouin.
Michel Vauzel est arrivé au palais de justice de Marseille. Le président socialiste de la région PACA doit être entendu comme témoin assisté dans une enquête sur des détournements de subventions de la région. Dans cette même affaire, la députée socialiste Sylvie Andrieux a été mise en examen en juillet. Plus de 700 000 euros auraient été détournés entre 2005 et 2007 par des associations fictives pour acheter les voix d'électeurs dans les quartiers nord de Marseille. La cour d'appel de Grenoble rendra sa décision le 16 septembre sur l'appel du parquet après la libération de Monsif Gabour. L'homme, soupçonné d'être le second braqueur du casino d'Uriage-les-Bains, avait été libéré sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Une décision vivement critiquée par les policiers et plusieurs ministres. La cour a entendu ce matin les arguments de l'avocat général qui demande la détention provisoire pour le jeune homme mis en examen pour vol avec arme et tentative d'homicide volontaire. Évoquant un dossier très fragile, l'avocat de la défense a de son côté jugé les éléments à charge plus qu'incertains. À la barre, Monsif Gabour a nié toute implication, justifiant sa fuite avant son arrestation par la peur liée à son passé judiciaire. Verdict attendu dans la soirée dans l'affaire Modolo. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône s'est retirée pour délibérer. Trois hommes et deux femmes sont accusés d'avoir torturé à mort William Modolo, un jeune homme de 21 ans, en mai 2006. Les peines requises vont de 20 ans de réclusion jusqu'à la perpétuité. À Toulouse, un mineur a été mis en examen et écroué dans l'enquête sur une série de tirs qui avaient visé entre autres des policiers. Les faits remontent au 24 août dernier, dans le quartier du Mirail. C'est la deuxième mise en examen dans cette affaire. Le mineur devra répondre de tentative d'homicide volontaire. La prochaine journée d'action contre la réforme des retraites, le 23 septembre, sera suivie à la SNCF. Les syndicats de cheminots CGT, UNSA et CFDT, ainsi que FO, appellent à la grève ce jour-là. Sudrail, la troisième force syndicale à la SNCF, déposera un préavis séparé pour un mouvement reconductible. Une double explosion à l'aéroport de Mogadiscio a fait au moins 7 morts, dont 2 soldats de la force de paix africaine. Un attentat survenu au moment de la visite en Somalie des envoyés spéciaux de l'ONU et de l'Union africaine, qui sont indemnes. Le gouvernement intérimaire de Somalie a dit s'attendre à une recrudescence de violences commises par les insurgés islamistes à l'approche de la fin du Ramadan. Et la tension monte à l'approche de la date anniversaire du 11 septembre avec le projet annoncé d'un pasteur de Floride de brûler ce jour-là des exemplaires du Coran. Le département d'État américain invite les ambassades à se préparer à d'éventuelles réactions à ce geste. Barack Obama a qualifié ce projet de destructeur, estimant que cela risquait d'engendrer des violences, notamment contre les soldats américains en Irak et en Afghanistan. Cela pourrait peut-être faire entendre raison à Terry Jones. Le pasteur a laissé entendre qu'il pourrait revoir ses plans s'il était contacté par les autorités américaines. Et puis au Japon, Teddy Riner entre dans l'histoire du judo à peine 21 ans. Le jeune Guadeloupéen est sacré champion du monde des plus de 100 kilos. C'est son quatrième titre. Teddy Riner rejoint David Douillet et deux champions japonais dans le cercle très fermé des judokas ayant remporté 4 fois un titre mondial.
Tous les jours dans le 5-7 boulevard de France Inter, le grand entretien de François Bunel.
Tous les jours, je vous propose d'ouvrir une parenthèse dans l'actualité culturelle, un entretien au long cours où les artistes prennent le temps de se livrer, de parler d'eux, de leur travail. Le grand entretien donne la parole à celles et à ceux qui rendent la vie un peu plus belle.
Le grand entretien de François Bunel,
du lundi au vendredi,
à partir de 17h.
France Inter, partenaire du Centre Pompidou-Metz. Venez découvrir l'exposition événement chef-d'œuvre jusqu'au 25 octobre et prolongez la découverte des œuvres à travers la première saison culturelle du Centre Pompidou-Metz. Danse, théâtre, musique, cinéma, conférences sont au rendez-vous. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. France Inter. La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Certains d'entre vous nous signalent qu'on ne peut pas écouter les émissions en streaming, c'est-à-dire réécouter pendant la semaine, avant d'avoir d'ailleurs le podcasting un de ces jours. Peut-être, c'est une question d'accord des ayants droit, je le rappelle. C'est des discussions, ce sont des discussions qui avancent, mais enfin qui ne sont pas encore tout à fait conclues. Et par contre, là, on a un problème, un incident, on pourrait écouter les émissions durant la semaine. On tâche évidemment de toutes nos forces d'arranger cela. Hier, j'ai évoqué les compositeurs qui avaient vécu longtemps. Je n'ai pas pu en une heure les citer tous, alors je vais recommencer un petit peu avec par exemple Aaron Copland, l'américain, le créateur de la musique dite classique américaine ou symphonique, comme vous voudrez, qui est quand même arrivé à 90 ans. Il a eu le temps d'inspirer beaucoup de jeunes, dont Leonard Bernstein. Il a côtoyé la musique la plus populaire comme la musique savante. Enfin bon, ça a été un grand sage à la fin de son existence et il mérite évidemment un coup de chapeau de cow-boy, puisqu'on va entendre Rodeo et un extrait de ses 4 épisodes de danse, Ho Down, ce qui signifie Ho, c'est la houe, c'est l'outil pour cultiver la terre, et Down, c'est-à-dire on la jette par terre. C'est le moment où les travailleurs de la terre jettent leurs outils pour aller danser.